Vous écoutez France Culture.
Les matins de France Culture, il est 7h41.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Winter is coming. Eh oui, depuis dimanche dernier, contrairement aux apparences, l'hiver approche. Après un an d'attente, les fans de Game of Thrones ont pu voir le premier épisode de la 5e saison de la série. Le premier épisode, pas si sûr, car quelques heures avant sa diffusion, les 4 premiers avaient déjà fuité sur Internet. Il faut dire que la série permet de former ici en accélération tous nos vices en numérique au piratage industriel. Mais enfin, cela montre qu'il y a un engouement autour des séries énorme depuis déjà plusieurs années. Et cette semaine, c'est par exemple aussi la mythique série Mad Men qui crée l'événement avec le début de la diffusion de l'ultime saison de sa série, la 7e et dernière. Il faut dire que depuis quelques années, les séries ont fait la révolution tous azimuts. Il semble loin, nos feuilletons Navarro, Louis la Brocante et autres feux de l'amour, quand Trou Détective, Petit Quinquin ou Engrenage détonnent avec ambition sur nos écrans. Et pas seulement télé, puisque si les séries font la révolution, c'est qu'elles révolutionnent aussi la question de tous les supports. Faut-il parler encore de séries télévisées quand Internet, le streaming, Netflix ont modifié à ce point le paysage de la diffusion audiovisuelle? Et la révolution, ce sont aussi ces séries qui abordent des sujets sociétaux, politiques, avec ambition et originalité. Alors, beaucoup de questions ce matin. Comment les séries ont-elles acquis leur lettre de noblesse? La production américaine est-elle toujours le leader incontesté de la production? Et quelles séries regarderons-nous demain? Et comment les regarderons-nous? Avec nous pour en parler ce matin, 3 spécialistes des séries. La patronne du Forum des Images, bonjour.
Bonjour.
Je dirais patronne comme on le dirait dans une série américaine. Vous êtes la CG de la série française, Laurence Herzberg. Vous dirigez le Forum des Images. Et c'est vous qui, il y a 6 ans déjà, avant que, sentant la mode venir, qui avez créé ce festival Sériemania, qui démarre ce soir et qui démarre, alors, et comment, et en beauté, hein, avec notamment des rencontres comme Matthew Weiner, le fameux créateur de la série Mad Men, mais bien d'autres encore. Avec vous, à vos côtés, Carole Desbarra, bonjour.
Bonjour.
Qui, du statut très sérieux, d'avoir dirigé Les Savoirs à Normal Sup, qui d'avoir enseigné le cinéma, le grand, le seul, le vrai à la Fémis, s'est dévoyé en se consacrant désormais aux séries. On me dit que vous préparez un livre sur West Wing.
Bien sûr.
C'est sérieux?
Mais absolument, c'est magnifique comme série.
Après Dreyer, Bresson...
Avec Dreyer et Bresson.
Ah oui, ça c'est un sujet, nous en parlerons. Et avec vous, Olivier Joyard, bonjour.
Bonjour.
Journaliste sur les séries, sur le cinéma également, aux Inrecuptibles, réalisateur de documentaires, dont le documentaire Série Addict. Et puis alors, tout nouveau co-responsable, enfin il y a toute une petite bande qui vient de créer... Alors ça y est, ça aussi, ça existe maintenant, ouais. L'association des journalistes, des critiques de séries.
C'est ça, on essaie de dire qu'on est des grandes personnes maintenant, qu'on peut se fédérer. Non, c'est pas un syndicat, mais c'est simplement pour signifier qu'il se passe quelque chose aussi dans l'écriture sur les séries, et voilà. Pas seulement dans les séries elles-mêmes.
Auquel appartient notamment Mathieu Lagan, notre ami du rendez-vous de Laurent Gomard tous les jours à 19h. Bon, on va peut-être poser des premières questions un peu novices, mais tout de même, et moi, il faut que je comprenne 2-3 choses, qui suis toujours un peu en retard sur ce genre d'actualité. J'ai découvert, moi, West Wing ou Game of Thrones il y a à peine 3 jours. Laurence Herzberg, quand même, à quel moment est-on passé du mot, est-ce que c'est juste une opération marketing ou est-ce qu'il y a réellement une différence entre ce qu'était un feuilleton et une série? Est-ce qu'il y a réellement une différence entre la structure même de Peyton Place, Dallas et de Mad Men ou de West Wing?
Alors on commence donc par une question un peu technique, c'est-à-dire qui montre effectivement la variété de ce qui existe sur nos écrans. Je vais quand même rappeler que le feuilleton a toujours existé, n'est-ce pas Carole? Oui. Feuillade faisait déjà des feuilletons. Donc le feuilleton, qui peut aller jusqu'au soap opéra, c'est-à-dire des séries extrêmement longues qui, tous les soirs, vous scotchent sur votre écran. Le plus beau feuilleton ou soap opéra, c'est quand même Plus belle la vie sur France 3.
Alors, c'est une série ou c'est un feuilleton Plus belle la vie?
C'est un soap opéra, c'est-à-dire qu'en fait, ouais. Il est vraiment tous les jours. Le feuilleton, il peut être un peu plus court. Le feuilleton est une histoire comme ça dans la continuité, mais qui n'est pas forcément aussi long que Plus belle la vie, qui dure maintenant déjà depuis 4-5 ans.
Voilà, et dans ces temps de dénigrement franco-français, faisons un cocorico, parce que c'est un vrai succès populaire et télévisuel, après tout, hein, ce plus belle la vie sur France 3.
Ah mais oui,
hein,
et en plus, ça d'ailleurs, ça répond tout à fait aux règles de la série, de coller à l'actualité, de raconter quelque chose de la société, et tous les jours, ils se remettent comme ça, effectivement, à se dire, bah, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui ? Donc ça, c'est un peu le feuilleton. Il y a autrement ce qu'on appelle les séries récurrentes, qui sont souvent des séries policières, qui bouclent après chaque épisode. Vous prenez voilà des grandes séries américaines qu'on a aussi sur nos écrans, The Mentalist, ouais. Et bah à chaque fois, on sait qui a tué voilà. Ou qui a, etc.
Mais l'ancêtre de The Mentalist, ça n'est jamais que Columbo.
Mais bien sûr, mais attendez, mais on n'a rien réinventé. Ouais. On a réinventé, mais on n'a rien inventé.
Olivier Joyard,
oui, on a réinventé, on a reprécisé les enjeux. Enfin, je trouve que c'est quand même, il s'est passé quelque chose après les différences feuilletons, séries. À la limite, feuilleton, pour moi, c'est plus la littérature populaire ou les choses qui étaient publiées dans les journaux au 19e. Donc, peut-être que je préfère le mot série pour singulariser. Mais je sais pas exactement, parce qu'aux États-Unis, on dit TV shows ou TV series. Enfin, il n'y a pas vraiment une définition. En fait, c'est difficile à définir, en fait, à vrai dire, de mettre un seul mot sur un truc qui est très, très varié.
Mais vous diriez, par exemple, Carole Desbarak, je ne sais pas, moi, mettant West Wing, ne fait jamais que continuer ce qu'Alexandre Dumas faisait dans les journaux ?
Non, c'est autre chose. West Wing, c'est quelque chose qui fonctionne avec un récit en images, en son, en mouvement, dans la durée, avec du montage et du hors-champ. Donc, c'est plus proche du cinéma que de la littérature.
Oui, mais le principe, il est quand même assez commun au feuilleton journalistique, à savoir qu'il y a des épisodes qui se succèdent et qu'on renvoie chaque fois de l'un à l'autre.
Oui, bien sûr, si on veut.
Bon, on va écouter en son tout de même. Avant, la série, c'était ça. On va faire un quiz. C'est quoi, ça ?
Ah, je sais pas, je suis... Oh. C'est trop tôt.
Je suis trop
moi.
Jeune, moi. Bon.
Non, moi, je devais avoir l'âge, mais je connais pas.
MacGyver.
Ah, mais oui.
Pourtant,
c'est bien sûr.
J'ai élevé mon fils à MacGyver, oui.
Et maintenant, ah bon, bah, dis donc, bon enfant. Et maintenant, c'est ça.
Bon, là, ça va.
Alors, c'est quoi
Trou détective.
Trou détective,
oui.
C'est quoi Trou détective?
Un trou détective, c'est magnifique. C'est Nick Pizzolatto qu'on a reçu l'an dernier. Alors là, on est là quand même dans la littérature, on est dans le cinéma, on est dans la série télévisée. C'est une petite révolution, Trou détective.
Alors à quel moment la série est-elle devenue un genre noble ?
Moi, je...
C'est une question que je me suis posée peu dans ma chair, je dirais, parce que j'étais critique de cinéma dans une sorte d'institution qui était les Cahiers du cinéma, et je me suis trouvé tout à coup vers la fin des années 90. Je me suis dit, tiens, je regarde de plus en plus de séries, il va commencer à falloir que j'écrive dessus, peut-être pour mettre en accord ma vie de spectateur avec ma vie critique, et donc peut-être ça a correspondu de fait un peu historiquement aux premières séries HBO.
Alors mais lesquelles par exemple? Parce que c'est, en général, on se souvient
c'est
de la...
Oz, la vraie première, en fait, la série dramatique, en tout cas la première, et puis ensuite il y a eu tout ce qui s'est passé à partir vraiment de la fin des années 90, mais même non seulement West Wing, c'est 1999, c'est une série de grand public sur un network, mais c'est pas HBO. Mais oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que pour moi, la question du côté noble des séries, c'est une question quasiment du passé en réalité.
Dans le livre de Charlotte Bloom, vous aimez les séries, et ce livre est fait pour vous, à la Martinière, il y a une chronologie qui fait démarrer au fond quand même la question de la série, effectivement, avec Oz et Les Sopranos.
Oui, c'est ça.
C'est à ce moment-là qu'on sait qu'il y a quelque chose qui redémarre, qu'on redécouvre Laurence Herzberg.
Oui, c'est-à-dire c'est en fait la complexité des histoires, c'est de s'intéresser à des milieux un peu déviants, c'est des histoires comme ça qui vont s'imbriquer les unes dans les autres, c'est des héros collectifs, et puis c'est la nouveauté des sujets. Donc moi, c'est vrai, pour moi c'est le début des années 2000, c'est effectivement Les Sopranos, après c'est The Wire, et ça vient très clairement pour le coup des Américains.
Alors ça veut dire, Carole Desbarak, qu'il a fallu tout de même faire quoi, une sorte de révolution épistémologique, de coupure épistémologique ou pas, on en parlait avec Olivier Joyard à l'instant, c'est-à-dire qu'à une époque tout de même, il n'était pas forcément bien vu d'écrire sur ce qui aurait été, dirait François Angelier, un mauvais genre quand on a écrit sur Brisson, Godard et que sais-je encore. Tout d'un coup, passer le Rubicon pour aller vers la série, est-ce que ça fut aussi simple que cela ?
Mais dans la mesure où c'est une question de plaisir, oui, ça a été simple. Maintenant, moi je rejoins ce qui a été dit sur le fait que la noblesse attribuée à la série, elle arrive effectivement avec HBO. Et c'est ça qui nous a permis aussi de nous dire, ce n'est pas qu'un mauvais objet. Mais un mauvais objet de plaisir, bien évidemment, comme le cinéma pour les cinéphiles des années 50 était un mauvais objet. Hein. C'est du même ordre. Mais c'est autre chose qui est en train de se dessiner. Et je rajouterai à ce qui a été dit par rapport à l'arrivée d'Oz et des Sopranos, le fait que, et c'est caractéristique, les réalisations de ces séries ont tout d'un coup franchi un Rubicon et se sont mis à utiliser à fond ce qu'il y a de plus fort dans le cinéma, l'éclairage. Vous n'avez plus des plateaux éclairés en douche où tout était visible par le spectateur parce que on suppose qu'il est idiot et on va tout lui montrer. Vous avez un vrai travail qui se fait esthétiquement, aussi bien sur les cadrages, sur le montage, sur l'éclairage. Et du coup, ça fait basculer la série dans quelque chose de plus recherché.
Est-ce que le débat qu'il y a pu avoir il y a quelque temps entre la série est un genre pas noble tandis que le cinéma en est un, est-ce qu'il est toujours valable ? Est-ce que la frontière entre cinéma et série est toujours valable, Laurent Herzberg ?
Non, alors, je voulais rajouter quand même sur le côté noble. Nous, on s'est rendu compte quand on a créé Sérimania et qu'on est allé chercher...
Il y a sept ans
pour le temps de préparation et qu'on a parlé aux Américains et qu'on leur a expliqué qu'est-ce qu'était le Forum des images, c'est-à-dire une institution dédiée au cinéma. Ils nous ont dit, c'est incroyable, maintenant on peut exister dans ce qu'ils considéraient comme un des temples de la cinéphilie européenne et française. Donc là, on voyait que le fait que...
Qu'ils attendaient presque cette reconnaissance-là.
Oui, c'était une reconnaissance. Le cinéma, dans leur esprit, enfin, avait toujours le côté un peu mythique, surtout vu par les Français, d'être un lieu noble, un art noble. Et nous, on venait en leur disant, mais on va créer un festival de séries télévisées, et ce sont des gens de cinéma qui vont le créer.
Et du coup, vous poursuiviez la grande tradition française, au fond, qui fait que la critique française a reconnu, avant certains Américains, la qualité d'un Hitchcock, d'un Jerry Lewis, et j'en passe, Olivier Joyard.
Voilà, ça se discute un peu plus. Je pense que les Américains ont quand même une certaine longueur d'avance dans les facs, les universités, c'est étudié depuis très longtemps.
Oui, mais on a dit davantage de bien en France d'Hitchcock avant qu'on en dise du bien aux États-Unis.
Ah, sur le côté, le cinéma populaire américain des années 50, les auteurs, ce que les cahiers du cinéma, pour le coup,
tout le monde,
et Hawks et tout ça, ça oui, bien sûr. Mais la question de noble et pas noble, elle est aussi un peu, comment dire, c'est aussi pas noble les séries, et c'est bien, quoi. Enfin, je veux dire, Louis Skorecki, quand il écrit des textes dans les années 70, il dit, il faut se vautrer dans la télévision, c'est la nouveauté, c'est la jeunesse, c'est l'enfance, en fait. Donc, il y a quelque chose, moi, qui me stimule aussi dans le fait de me dire que c'est un peu canaille, quand même, d'écrire sur les séries. Enfin, c'était. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, on est tous là pour
chic. Ça devient très, très chic.
C'est le dernier
chic. Et même,
Carole Desbarra.
Mais c'est vrai que la question de la noblesse et de l'ennoblissement, on peut la résoudre factuellement. C'est-à-dire qu'en 2001, le MoMA a fait une rétrospective de la saison 1 et 2 des Sopranos. Et ça, c'est un acte qui est important.
Oui. Je me souviens avoir discuté avec Jean-François Roger de la Cinémathèque française qui disait qu'il voulait absolument mettre une intégrale des Sopranos à la Cinémathèque. Bon, c'était il y a 10 ans, il ne l'a pas fait, mais c'est...
Il ne l'a toujours pas fait.
Ça arrivera peut-être un jour.
Ça viendra peut-être. Moi, je pensais que tout de même que vous alliez me dire que la série a notamment acquis ses lettres de noblesse quand, après tout, des gens de cinéma, des réalisateurs de cinéma s'y sont intéressés comme eux, par exemple, ceci. Vous reconnaissez ?
Ah oui, bah oui, quand même. Twin Peaks, ouais.
Quand David Lynch a fait Twin Peaks, on s'est dit, la série, voilà, c'est classe.
Non, mais moi je ne partage pas. Non, ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas les cinéastes qui ont donné leur lettre de noblesse. Ce que les cinéastes ont donné, alors, pour le coup, quand même, c'est une réalisation différente. Et là, Carole a raison, et c'est que maintenant, ils y viennent tous. C'est-à-dire, c'est dans l'autre sens. Ils n'ont plus l'impression, en fait, de se dévaloriser, ni les comédiens de cinéma, en venant à la série. Mais il faut voir quand même que c'est un genre à part entière, qu'il y a des créateurs qui sont des créateurs de séries télévisées qui viennent de la télé. Matthew Weiner, il vient de la télé.
Matthew Weiner, vous dites.
Aaron Sorkin.
Ah.
Déjà votre soupir,
ça c'est quand même le
votre soupir trahissant,
élégant, le
on s'en est même servi pour les matins. On l'écoute un peu alors. Voilà. voilà, avec un générique, on le sait, graphique, beaucoup copié tout de même sur ceux d'Alfred Hitchcock. Vous avez rencontré Matthew Weiner, Olivier Joyard, parce que quand on parle des séries, au fond, oui, il faut quand même parler des hommes et des femmes qui les font, enfin, en l'occurrence, surtout des hommes, on parlera d'Orange is the New Black tout à l'heure. Ouais. Mais enfin, ça tient beaucoup à des personnes. Alors, Sorkin, vous nous en parlerez quand on laisse bras, mais Weiner, alors qui est cet homme, par exemple?
Bah, c'est, en fait, ça aurait pu être un scénariste raté, à vrai dire. Il écrivait sur des sitcoms pas forcément les meilleurs dans les années 90, c'est pas Seinfeld ni Friends. Et puis, il s'ennuyait tellement qu'il a écrit le pilote de Mad Men, donc ça date quand même un peu. Et ensuite, il a essayé de vendre cette série qui n'a plu à personne, sauf à David Chase, le créateur des Sopranos.
Alors, elle ne plaît à personne pour quelle raison? Parce que c'était lent. Sans beaucoup de rebondissements, il le dit lui-même.
Hein, oui. Je pense que c'était légèrement en avance sur son temps. C'est aussi une question de timing politique, je pense, sur le peut-être que la nostalgie des années 60 n'était pas encore.
Alors il faut préciser, Mad Men, c'est aujourd'hui. Au départ dans les années 50, un groupe de publicistes à New York dont on suit
ça
les
années 1960.
Hein, enfin, oui, bon, c'est ça. Groupe de publicistes qui ont une vie et dont on suit la vie avec un personnage principal.
Qui s'appelle Don Draper.
Auquel on va finalement s'identifier. Parce que les séries, qu'est-ce que c'est quand même? C'est un groupe de personnages où tout d'un coup émerge un personnage principal auquel on va s'attacher.
Non. Ah non.
Non, ça c'est le contraire du cinéma pour le coup. Il n'y a pas d'identification à un seul héros. Enfin, je trouve. Non. C'est toujours plus ou moins collectif.
La clé, justement.
Dans Mad Men.
Mais la femme de Don Draper. Et puis Guy Olson. Mais non.
Ouais.
Ah mais non.
Je m'identifie plus aux femmes de Mad Men.
Mais oui.
Personnellement.
Ah, c'est vrai, Olivier. Tu t'identifies aux femmes de Mad Men. Moi, je veux dire que Don Draper, je ne sais pas si je m'y identifie, mais en tout cas, je m'intéresse beaucoup aux évolutions de Don Draper. En fait, la série, c'est justement l'antithèse du héros unique. Vous pouvez pas tenir sur 10 épisodes si vous n'avez qu'une histoire à suivre. C'est pas possible. Et c'est ça qui en fait la richesse, c'est que vous allez suivre différents personnages, toujours en fait extrêmement développés. C'est ça que regardez Game of Thrones. Game of Thrones, vous vous perdez complètement dans la variété des personnages. Mais c'est ça qui en fait la force.
Carole Desbarras.
Ah mais je vais vous donner juste des chiffres. The West Wing, 155 épisodes de 40 minutes, ça fait 6200 minutes, ça fait 68 longs métrages de 1h30. Vous rentrez dans l'intimité des personnages, ça c'est clair.
Et il n'y en a pas un qui domine plus que l'autre. Il n'y a pas
d'identification. Chacun son goût.
Ah si, il y a une identification mais qui est plus ou moins collective, variable, avec le temps, parce qu'on n'est pas la même personne après 5 ans de West Wing qu'on était au début. Il y a quand même toute une... La place du spectateur n'est pas tout à fait la même sur les séries.
West Wing.
If people fail to realize that a straight ticket vote doesn't count in non-partisan races, if they just casually vote the party line, then their interest will continue to go unrepresented.
Josh is convinced that it's something more than a crisis. He's upgraded it to a calamity, a catastrophe.
I'm telling you, it's an apocalypse.
It's an apocalypse now? What say you, CJ? Shall we have calmer heads prevail?
Mr. President, as you know, the men and women who sit on the state Supreme Courts rule on issues that affect literally millions of Americans.
Nothing big, you know, niche issues like civil rights.
The environment.
Workplace protections.
Voter protection.
This isn't even about which side of those issues you're on. We should do something because that's...
Because we can.
On reconnaît aussi les ressorts de la screwball comédie, là aussi piqué au cinéma. Carole Desbarras, qu'est-ce qui fait l'intérêt de la série West Wing sur laquelle vous écrivez un livre?
Je pense que c'est une série qui traite de la politique comme Romère traite de l'amour. C'est-à-dire que c'est scientifiquement psychologique sur les ressorts de la politique. En même temps, c'est complètement ancré dans l'époque de la fin du règne de Clinton et de celui de George Bush fils. Et on est quelque part entre le glamour et la gravitas romaine.
Vous auriez une définition du glamour valable à 7h58 ?
Mais je suis en train de travailler dessus, je peine beaucoup d'ailleurs. Alors, pour m'en sortir, j'ai travaillé sur le costume. Je me suis dit, essayons de travailler sur la façon dont ces personnages sont habillés. Et je me suis rendu compte que la costumière de The West Wing, Lynn Elizabeth Paolo, était aussi la costumière de Scandal, dans lesquels les costumes sont sublimement chics, alors que dans The West Wing, ils sont fagotés. Donc, il y a l'idée que le glamour est ailleurs que dans le costume, il est dans la parole, dans le plaisir de l'esprit.
Et que dit de l'Amérique West Wing? Est-ce que ça dit quelque chose de sérieux ou pas?
Ça dit quelque chose de sérieux, mais aujourd'hui, vous n'auriez plus un producteur qui mettrait un dollar pour faire cette série.
On dit que pour raconter ces coulisses de la Maison Blanche, ils ont un jour rencontré un jeune homme qui est aujourd'hui, paraît-il, président des États-Unis, Barack Obama, par exemple.
Tout à fait. Effectivement, les conseillers, alors, ils se sont vraiment fondés sur les conseillers qui ont travaillé avec Clinton, Didi Myers, par exemple, qui a été porte-parole de Clinton et qui est au générique d'une grande partie des épisodes. Ils ont rencontré David Axelrod, qui était le conseiller lui-même d'Obama, alors à ce moment-là, simplement sénateur de l'Illinois, et ce qu'ils cherchaient, c'était un autre président. C'est-à-dire un président qui soit pas WASP, qui soit pas blanc. Et donc, ils ont hésité entre noir, mais c'était déjà pris par 24 heures chrono. Et ils ont pris un latino, ce qui était effectivement l'étape d'avant une femme.
Et d'aucuns disent qu'ils sont là aussi, ils anticipent peut-être la réalité d'un jour prochain d'un président latino. Nous revenons sur toutes ces questions des séries à 8h15, comme chaque jour, le débat introduit par le Dexter des Matins de France Culture, Brice Couturier.
Oui, bonjour Marc. Oui, on nous dit beaucoup que les séries sont devenues les fictions les plus révélatrices de notre ère du temps. Or, moi, ce que je remarque dans les séries qui m'intéressent, en tous les cas, c'est qu'elles s'intéressent...
Lesquelles ?
Alors, bah, je vais vous le dire tout à l'heure. Bon, je garde le suspense. D'accord. Moi, j'aime The Americans, par exemple. J'adore. Wow. C'est le dévoilement de l'individualité, d'autre part. Et aussi une vision, justement, The Americans, une vision complotiste de la politique. Donc, je voudrais demander à vos invités, est-ce que les séries qui sont donc si révélatrices seraient devenues porteuses d'une paranoïa collective qui serait la nôtre aujourd'hui.
Voilà, nous reviendrons sur toutes ces questions en deuxième partie, puis nous intéresserons d'ailleurs aux autres séries que les séries américaines. C'est un des points forts de votre série Mania, hein, Laurence Herzberg, qui débute ce soir à Paris au Forum des Images, 8h01.